bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. Et ça ne signifie rien.
Objection Votre Europe, c'est l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent avec Tania Rachaud. Et dans ce podcast, on vous propose en fait d'analyser, de déconstruire des préjugés qu'il peut y avoir, des idées reçues sur l'Europe. C'est une émission qui est réalisée par Leobardo Arango. Objection Votre Europe revient avec une série spéciale Green Deal qui est présentée par les étudiantes de l'Université de Paris-Saclay. Dans cet épisode, vous plongerez avec les étudiantes Nada El Abachi, Léonie Favreau et Paola Atif au cœur des rouages complexes de la stratégie verte de l'Union européenne. Ensemble, elles vont passer au crible les enjeux cachés et les ambitions climatiques de l'Europe sur la scène mondiale et surtout le sort des enseignes de mode ultra rapide.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.
I could not agree more. And the hard truth is that we have failed to ensure we remain below 1.5 degrees. Science now tells us that the temporary overshoot between the 1.5 limit, starting at the latest in the early 2030s, is inevitable. We need a paradigm shift to limit this overshoot's magnitude and duration and quickly drive it down. Even a temporary overshoot will have dramatic...
Pour commencer, il est crucial de préciser que nous ne sommes plus dans le domaine de la soft law ou de simples déclarations d'intention. Le pacte vert est une véritable mutation normative.
Justement, avant d'aborder cela, rappelons le contexte et revenons sur l'extrait que nous venons de partager. Cette idée d'urgence est en effet clairement exprimée au plus haut niveau international, comme vient de le dire Antonio Guterres en ouverture de la COP30 en 2025.
En effet, il explique que même un dépassement temporaire du seuil de 1,5 degré, qui semble désormais inévitable, aurait des conséquences majeures.
Et c'est précisément ce constat qui pousse aujourd'hui les pouvoirs publics à agir plus concrètement sur certains secteurs particulièrement polluants, notamment la fast fashion. Neda, je te laisse revenir sur le pacte vert.
Oui, merci Léonie. Le pacte vert s'inscrit dans un contexte d'urgence climatique devenu difficilement contestable, mais aussi dans une pression politique croissante pour encadrer des modèles économiques jugés incompatibles avec les objectifs environnementaux. L'Union européenne ne se contente plus d'afficher les ambitions. Elle cherche désormais à transformer ses objectifs en normes contraignantes.
Sur le plan juridique, cette évolution s'est concrétisée avec la loi européenne sur le climat, qui inscrit dans le droit l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Ce texte fixe un cap général qui va ensuite se décliner en politiques sectorielles plus concrètes.
Justement, Paola, ce qui est intéressant, c'est la manière dont ce cadre très large se traduit dans certains secteurs particulièrement exposés, et notamment l'industrie textile. Parce que la fast fashion concentre à elle seule plusieurs des problématiques que le pacte vert cherche à traiter, surproduction, pollution massive et conditions de travail souvent opaques. C'est donc un terrain privilégié pour observer comment ces nouvelles exigences européennes se traduisent concrètement.
Nous pouvons maintenant parler du paquet ajustement à l'objectif 55, qui est la traduction opérationnelle du pacte. L'objectif est une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Pour y parvenir, l'UE mobilise un levier financier massif, le plan d'investissement pour une Europe durable qui vise à générer 1 000 milliards d'euros de financement sur la décennie. L'enjeu est la dissociation et le découplage entre croissance du PIB et consommation de ressources naturelles.
Effectivement, et pour protéger cette ambition face à la concurrence internationale, l'Union européenne a instauré le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est un outil juridique novateur qui impose une tarification du carbone sur les importations, acier, ciment, engrais. Et l'objectif est d'éviter les fuites de carbone et de garantir l'intégrité environnementale du marché unique.
En résumé, le pacte vert repose sur une architecture complexe, une base juridique forte, des piliers sectoriels et un principe de solidarité, le mécanisme pour une transition juste.
Comme l'a souligné Frans Timmermans, ancien vice-président de la Commission, la transition sera juste ou elle ne sera pas. C'est la reconnaissance que la viabilité politique du projet dépend de sa capacité à ne laisser aucune région, notamment les bassins miniers, sur le bord du chemin.
Merci Léonie pour cette analyse et pour cette mise en perspective. Nous avons là les fondements d'une analyse complète, une urgence scientifique, une réponse législative contraignante et un déploiement économique sans précédent. Maintenant que nous sommes munis des outils pour comprendre le Green Deal, nous analyserons l'impact du pacte vert sur un secteur qui prend de plus en plus d'ampleur dans nos vies quotidiennes. La fast fashion.
Pour illustrer cela, imaginez un t-shirt. Il coûte 2 euros, le prix d'un café. Il a traversé 3 océans pour arriver dans votre boîte aux lettres. Mais saviez-vous qu'il a fallu 2700 litres d'eau pour le fabriquer, soit ce que vous buvez en 2 ans et demi?
C'est là la magie noire de l'ultra-fast fashion. On produit 100 milliards de vêtements par an et on en jette la moitié en moins de 12 mois. C'est un modèle qui brûle la planète pour une tendance TikTok qui durera 3 jours. Et c'est là que Bruxelles entre en selle. Avec le Green Deal, pacte vert, l'Union européenne a décidé que la fête était finie. L'objectif est que d'ici 2030, tous les textiles mis sur le marché européen soient durables, réparables et recyclables. Aujourd'hui, nous allons décrypter comment la loi européenne veut déshabiller les géants de la mode jetable.
Mais pourquoi cette urgence ? Parce qu'en 2018, le GIEC a tiré la sonnette d'alarme. Limiter le réchauffement à 1,5 degré est une question de survie. Le textile est devenu la cible prioritaire car c'est le quatrième secteur le plus gourmand en matières premières et en eau après l'alimentation, le logement et les transports.
Le projet a été structuré par des piliers, comme le plan d'action pour l'économie circulaire. Les auteurs du pacte ont voulu une solution gagnante, à la fois écologique et économique. Mais c'est aussi un choix politique structurant qui engage la stabilité économique des États.
Oui, Léonie, on parle donc d'un investissement massif, entre 1 et 2% du PIB européen. Mais comment ce mastodonte législatif descend-il jusqu'aux nos armoires ?
Pour bien comprendre l'urgence de cette législation européenne, il faut d'abord visualiser l'ampleur du problème. Regardons du côté du désert d'Atacama au Chili, ou encore des plages du Ghana. Ces paysages magnifiques sont littéralement devenus les poubelles textiles du monde. On y trouve des montagnes excessives de vêtements jetés, majoritairement composés de polyester. Et rappelons-le, le polyester n'est ni plus ni moins que du plastique dérivé du pétrole, ce qui signifie que ces montagnes ne se décomposent jamais naturellement.
Oui, Paola, malheureusement, c'est un point crucial. On parle souvent de chiffon, mais les rapports de l'AIE et de l'ONG Changing Markets sont formels. L'industrie de la mode souffre d'une addiction au plastique. Le textile est devenu le bras armé de la pétrochimie. C'est pour cela que l'Europe a dû passer à la vitesse supérieure. Ce qui est vertigineux, c'est la rapidité avec laquelle on alimente ces décharges. Aujourd'hui, les statistiques montrent qu'un vêtement de fast fashion n'est porté en moyenne que 7 à 10 fois avant d'être relégué au fond d'un placard ou jeté. À l'échelle de l'Union, les chiffres donnent le tournis. Chaque année, un citoyen européen consomme en moyenne 26 kg de textile et en jette 11 kg. C'est une véritable hémorragie de matières premières et d'eau.
Oui, en effet, et au-delà des immenses décharges visibles, il y a la pollution invisible. À chaque lavage en machine, ces vêtements synthétiques à bas coût relâchent des millions de microplastiques qui finissent dans nos océans et contaminent toute la chaîne alimentaire. Au final, c'est un véritable conseil de classe planétaire qui nous indique que nous sommes en échec total. Le secteur du textile émet aujourd'hui plus de gaz à effet de serre que l'ensemble des vols internationaux et du transport maritime réunis.
Exactement. Le constat est effrayant. On peut même évoquer le désastre de l'utilisation des produits chimiques qui constituent une menace environnementale et sanitaire. Au-delà de la pollution des océans, la fast fashion est un désastre pour la santé des consommateurs. Pour baisser les coûts, ces marques utilisent des produits chimiques dangereux. Une étude de Greenpeace a révélé que 15% des vêtements Shein testés contenaient des substances chimiques, dépassant les limites réglementaires européennes. Mais d'un point de vue juridique, comment on en est arrivé là ? Pourquoi est-ce si facile pour ces marques de polluer massivement en toute légalité jusqu'ici ? Léonie, tu peux nous éclairer là-dessus ?
Eh bien Neda, tout simplement parce que nous évoluons dans un immense vide réglementaire. Le péché originel juridique, c'est l'absence de responsabilité. Jusqu'à présent, une marque d'ultra-fast fashion comme Shein appliquait le modèle parfait de l'économie linéaire. On extrait des ressources, on fabrique, on vend, on empoche le profit et on se lave les mains de la suite. La gestion de la fin de vie du produit, c'est-à-dire le traitement du déchet, incombait totalement aux collectivités locales et donc à nos impôts. L'objectif fondamental du Green Deal, c'est de renverser cette injustice. On passe d'une économie linéaire à une économie circulaire forcée par la loi.
Après avoir adressé ce bilan alarmant, il est temps d'écouter la réponse officielle de Bruxelles. Écoutons Virginius Sinkevicius, commissaire européen à l'environnement, annoncer ce qui sonne comme la fin d'une époque pour les géants de la mode éphémère.
Le message politique est sans équivoque. La fast fashion est passée de mode. Mais derrière le slogan, quels sont les verrous juridiques concrets que l'Union déploie pour transformer cette vision en réalité ? Entrons maintenant, après une brève pause musicale, dans le détail de cet arsenal législatif.
Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donne envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire. Car foule sentimentale, on a soif d'idéal.
Vous venez d'écouter Alain Souchon. Sa foule sentimentale dénonce avec justesse ce modèle de l'avoir que le Pacte Vert tente aujourd'hui de transformer par le droit en une économie circulaire durable.
Puisque le vide juridique est comblé, quelles sont les armes concrètes que l'Europe déploie pour riposter ? On entend notamment beaucoup parler de création d'un passeport numérique. De quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien Neda, c'est une question très intéressante. Ce passeport numérique, c'est la future arme fatale de la Commission. Avec le nouveau règlement sur l'éco-conception, connu sous le nom de ESPR, l'Union européenne va imposer la présence d'un QR code obligatoire sur chaque vêtement. Ce passeport retracera toute la vie du produit et détaillera son empreinte carbone, les produits chimiques utilisés lors de la fabrication et surtout sa capacité à être recyclé. La règle de Bruxelles sera binaire. Pas de passeport conforme, pas d'entrée sur le marché européen. C'est aussi un moyen puissant de lutter contre le greenwashing ou l'éco-blanchiment. Les marques ne pourront plus se contenter d'étiquettes vagues comme « éco-responsable », « sans preuve chiffrée » et « vérifiable par le consommateur et les douanes ».
Merci Léonie, et on peut aussi rajouter que, donc à cela s'ajoute une mesure spectaculaire, l'interdiction pure et simple de détruire les invendus. À partir de juillet 2026, pour les grandes entreprises, brûler ou jeter des vêtements neufs sous prétexte qu'ils sont hors saison ou qu'ils encombrent les entrepôts deviendra un véritable délit environnemental au sein de l'Union européenne. Cette mesure, elle a été en partie inspirée par des scandales retentissants, comme celui de la marque de luxe Burberry ou d'Amazon, qui avaient été épinglées pour avoir détruit des millions d'euros de marchandises neuves pour protéger leur image de marque ou vider leur entrepôt.
Exactement, Paula. Et pour boucler la boucle de la responsabilité dont on parlait tout à l'heure, l'Europe renforce la REP, c'est-à-dire la responsabilité élargie du producteur. Le principe est de frapper directement au portefeuille. Plus un vêtement mis sur le marché est de mauvaise qualité et difficile à recycler, plus la marque devra payer des taxes pour financer son élimination. C'est ce qu'on appelle l'éco-modulation, un système de bonus-malus écologique qui vise à rendre la mode jetable économiquement non rentable pour les producteurs. La France a d'ailleurs été pionnière sur ce sujet, en votant récemment une loi nationale visant spécifiquement la fast fashion, prévoyant des pénalités financières pouvant aller jusqu'à 10 euros par vêtement d'ici 2030. L'Europe s'inspire de cette dynamique. Tout cela est très ambitieux pour les acteurs européens, mais comment peut-on techniquement contrôler les géants de l'ultra-fast fashion comme Shein ou Temu, qui expédient des millions de colis individuels directement depuis la Chine vers nos boîtes aux lettres ? Léonie, peux-tu nous éclairer là-dessus ?
Eh bien, c'est le grand défi douanier de 2026. L'Union européenne prépare une riposte en travaillant sur la suppression d'une faille majeure, l'exonération des droits de douane qui s'applique actuellement à tous les colis d'une valeur inférieure à 150 euros. En instaurant cette nouvelle barrière douanière, l'Europe veut compenser le coût environnemental désastreux de ses envois à l'unité. Aujourd'hui, on estime que plus de 2 milliards de ces petits colis entrent en Europe chaque année avec très peu de contrôle, noyant littéralement les douanes européennes. Le modèle de Chine repose sur le « consumer to manufacturer ». Des algorithmes analysent les réseaux sociaux pour produire en temps réel de petites séries expédiées par fret aérien. Actuellement, ces colis passent sous les radars douaniers et ne payent ni taxes d'importation, ni souvent la TVA appropriée. C'est une concurrence totalement déloyale pour les marques européennes.
En effet, et en fait, l'arsenal n'est pas qu'environnemental. Il est aussi éthique et humain. La nouvelle directive européenne sur le devoir de vigilance, la CSDDD, vise à renforcer la responsabilité des grandes entreprises en matière sociale et environnementale. Elle impose aux entreprises d'identifier et de prévenir les risques les plus graves au sein de leur chaîne de valeur, notamment en matière de travail forcé, comme dans le cas de l'exploitation des Ouïghours. Toutefois, dans le cadre des révisions récentes dites « omnibus », ces obligations ont été partiellement limitées, notamment en se concentrant sur les activités à risque. Les entreprises pourront voir leur responsabilité civile engagée en cas de manquement, mais il ne s'agit pas d'une responsabilité pénale. Plus de 10 ans après la catastrophe du Rana Plaza, l'Union européenne tente ainsi, malgré des compromis politiques, de mieux encadrer les pratiques de multinationales. Avec toutes ces contraintes inédites, l'Europe ne risque-t-elle pas de se retrouver isolée, voire d'échouer ? Lors de la COP30, on a bien vu que l'Union affronte ses propres divisions.
C'est le point de tension actuel. Les élections européennes de 2024 ont d'ailleurs marqué un certain recul de l'élan écologique. Le discours politique s'est brusquement réorienté vers la protection de la compétitivité et la souveraineté industrielle. De nombreux États membres s'inquiètent ouvertement du coût social de ces transformations et craignent de tuer l'industrie locale au lieu de la sauver. Le lobbyisme de l'industrie textile est extrêmement puissant à Bruxelles. Beaucoup craignent que des réglementations trop strictes ne fassent qu'augmenter le prix des vêtements pour les ménages européens les plus modestes, créant une fracture sociale.
Et pendant que l'Europe débat et légifère sur le long terme, les plateformes comme Chine et Temu continuent d'inonder le marché en profitant des failles douanières actuelles. L'Union européenne a très clairement sous-estimé la puissance d'adaptation des pays des BRICS, tout en surestimant peut-être sa propre force de persuasion immédiate.
Effectivement, Paula. Pourtant, on ne peut pas nier la force de frappe de l'Europe. En tant que premier contributeur mondial au financement climatique, l'Union européenne possède une carte maîtresse, son marché intérieur. Avec un vivier de 450 millions de consommateurs au fort pouvoir d'achat, elle détient un pouvoir réglementaire immense. La condition est désormais claire. L'accès à ce marché si lucratif sera conditionné au strict respect de ces nouvelles règles environnementales et sociales. C'est ce que les géopolitiques appellent l'effet Bruxelles. En imposant des standards très élevés sur son territoire, l'Union européenne force les multinationales du monde entier à modifier l'ensemble de leur chaîne de production mondiale, car il serait trop coûteux pour elles de fabriquer deux lignes de produits différentes. L'Europe ne fait pas que légiférer pour elle-même, elle tente d'imposer un nouveau standard mondial par la force de son marché. Reste à savoir si le filet sera assez serré pour attraper les géants de l'ultramode.
Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe spéciale Green Deal par les étudiantes Nada El Abachi, Léonie Favrou et Paola Attif du Master Droit Européen de l'Université Paris-Saclay. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les plateformes de podcast, le site d'Amicus Radio et celui de l'Observatoire du Green Deal de l'Université de Paris-Saclay. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. L'Europe.